À toutes et à tous. Les députés ont tranché, l'Assemblée nationale a voté en première lecture ce soir la mesure la plus controversée de la proposition de loi Sécurité globale, compte rendu de ces débats dès le début de cette édition. C'était l'avant-dernier compagnon de la Libération, Daniel Cordier, est mort ce vendredi à l'âge de 100 ans. Résistant dès 1940, marchand d'art et historien, nous évoquerons une partie de sa vie avec l'historien Jean-Noël Jeannenet. Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en France semblent rassurants. Quatrième jour consécutif de baisse du nombre de patients en réanimation, une amélioration de la situation donc, mais nous verrons que les soignants appellent à poursuivre nos efforts. Aux États-Unis, presque deux semaines, jour pour jour, après l'annonce de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, Donald Trump continue de crier à la fraude, alors que les bulletins de vote ont été recomptés dans certains États. Nous retrouverons Grégory Phillips à Washington. C'est dans un climat tendu que les députés ont continué d'examiner cet après-midi la loi dite de sécurité globale. Au cœur des débats aujourd'hui, l'article 24, cette mesure contestée qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. C'est donc après plusieurs heures de discussion que l'Assemblée a voté en première lecture ce texte. Pour le ministère de l'Intérieur et les syndicats policiers, cette mesure permet de protéger les forces de l'ordre. Pour les journalistes, les défenseurs de la liberté publique et les pourfendeurs des violences policières, il s'agit d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, compte rendu de ces échanges avec Antoine Maret.
4h30 de débat pour un seul article truffé d'amendements, avec un affrontement très net entre les députés de la France insoumise et le ministre de l'Intérieur. Deux idées qui s'opposent, la liberté d'informer contre la protection des policiers. Un dialogue de sourds entre deux visions irréconciliables, avec un épilogue écrit à l'avance. Malgré les hésitations au sein même de la majorité, malgré les protestations de la gauche et l'inquiétude des journalistes, l'article 24 est passé dans la douleur. Gérald Darmanin, partisan d'une ligne dure, a dû rétro-pédaler plusieurs fois. La semaine dernière, il se disait favorable au floutage des visages des forces de l'ordre en cas de diffusion de leur image sur Internet. Indignation puis rétro-pédalage du ministre. Mercredi, il a évoqué la nécessité pour les journalistes de se rapprocher de la préfecture de police pour couvrir une manifestation. Indignation et rétro-pédalage à nouveau. Et puis la veille, des journalistes avaient été empêchés de filmer lors d'une manifestation contre la proposition de loi. L'un d'eux avait même été placé en garde à vue. Du pire effet en plein débat sur l'article 24. Nouveau rétro-pédalage de Gérald Darmanin, ou plutôt selon lui, une précision via un amendement. Objectif, lever toute ambiguïté sur son intention de garantir la liberté de la presse. L'amendement gouvernemental a finalement été adopté par 146 voix contre 24.
Merci beaucoup Antoine Maret. Et par ailleurs, une trentaine de rédactions ont signé une tribune. Pas question d'accréditer les journalistes pour qu'ils couvrent des manifestations. Radio France fait partie des signataires. Tribune à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. C'était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Daniel Cordier est mort aujourd'hui à l'âge de 100 ans. En 1940, alors qu'il a à peine 19 ans, il est l'un des tout premiers à rejoindre les forces françaises libres à Londres. Parachuté en France en 1942, il est embauché comme secrétaire par Jean Moulin à Lyon et il restera ensuite au service de cette figure de la résistance jusqu'à son arrestation l'année suivante. Aujourd'hui, un seul compagnon de la Libération est encore en vie. Il s'agit d'Hubert Germain, lui aussi centenaire. Le dernier donc des 1038 distingués par le général de Gaulle pour leur engagement au sein de la France libre pendant l'occupation allemande. Un hommage national sera d'ailleurs rendu à Daniel Cordier dans les prochains jours, annonce faite par Emmanuel Macron qui salue l'engagement, l'héroïsme et le patriotisme de ce compagnon de la Libération. Et pour en parler avec nous, Jean-Noël Jeannenet, historien, ancien président de Radio France et de RFI. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors, lors d'une interview en 2018, Daniel Cordier déclarait « Dès qu'il s'agit de la liberté, je serai toujours là ». C'est ça, notamment, qu'il faut retenir de lui.
Je dirais presque que c'est une forme de modestie, puisqu'il ne décrit là qu'un des moments d'une vie qui est celle d'une très haute figure, d'un destin assez prodigieux, et qui, de fait, s'organise de façon non pas univoque, me semble-t-il, autour de la résistance, aussi lumineuse qu'ait été cette période, mais d'une façon ternaire. On retrouve une bonne règle classique. Et chacune de ces étapes, le jeune homme magnifique résistant, secrétaire de Jean Moulin, puis ensuite le trentenaire qui est marchand d'art avec une prescience sur l'art contemporain qui est vraiment sans pareil, et puis ensuite l'historien, presque sexagénaire, qui va installer son œuvre au centre de la connaissance de la période. Et chacun de ces moments de ce destin qui est vraiment hors de pair et qui aujourd'hui nous considérons avec un mélange de chagrin et d'admiration ce soir. Chacune de ces périodes est marquée, je trouve, par la vaillance, le courage physique, bien sûr, et moral, par la persévérance et aussi par ce que j'appellerais une générosité d'âme.
Justement, que nous dit le parcours de Daniel Cordier, militant de l'Action française et maurrassien, devenu secrétaire de Jean Moulin ?
Il l'a raconté superbement dans son livre qui s'appelle « Alias Caracalla » qui est paru en 2009. Cela veut dire qu'à un moment donné, il se passe un événement d'une brutalité effroyable avec la débâcle qui, pour un patriote, était voué à le bouleverser et qui, d'un coup, le fait réfléchir à beaucoup de choses. Et puis, il constate que le milieu où il s'était d'abord engagé, comme lycéen, évolue vers un vichisme et une collaboration dont Maurras, qui était son grand homme à l'origine, est la figure majeure, centrale. Et cela provoque cette sorte de bouleversement dans son âme, qu'il a analysé encore une fois lui-même avec le recul, qui va le mettre du côté du gaullisme, de la résistance, et en définitive de cette sorte, tout au long de sa vie, de cette sorte de socialisme modéré qui caractérisera désormais sa sensibilité politique.
Vous évoquiez la résistance, Daniel Cordier ne voulait pas se dire résistant, mais français libre, pourquoi ?
Oh, c'était peut-être quelque chose comme l'esquisse d'une coquetterie. Il voulait dire qu'il était à la fois à Londres et en France, puisqu'il a été dans la mesure où on peut considérer que les mots de résistant seraient destinés à définir le combat de l'intérieur. La France libre étant gouvernée par De Gaulle à partir de Londres, c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas cet adjectif. L'essentiel, c'est qu'il a quand même été un résistant magnifique et qu'il a été aux côtés de Jean Moulin, qui était aux antipodes de ce qu'était la sensibilité du milieu où il évoluait comme lycéen et comme jeune étudiant à Bordeaux, puisque Jean Moulin, c'était l'ami, le collaborateur de Pierre Cotte, au cœur de la gauche républicaine avant 1940, et que c'était par conséquent quelqu'un qui était destiné à lui faire découvrir de nouveaux horizons.
La disparition de Daniel Cordier, justement, avant-dernier compagnon de la Libération, c'est une page de l'histoire qui se tourne.
Oui, vous savez que la règle veut que le dernier compagnon de la Libération soit enterré au Mont-Valérien. Il était un des deux derniers, centenaire. L'autre, c'est Hubert Germain, qui a été à un moment ministre de Pierre Messmer dans les années 70. Et c'est lui qui sera apparemment au Mont-Valérien. On dit que Daniel Cordier, qui sentait bien qu'il y avait une sorte de compétition un peu funèbre, mais en somme honorable, avait dit qu'il préférait rester dans son midi à Cannes, où il avait prévu de reposer et qu'il n'aspirait pas à cet honneur suprême. En vérité, il mérite d'être honoré selon tant d'autres façons qu'il n'avait pas besoin de cet ultime éclat.
Vous le disiez, le dernier compagnon de la Libération, c'est Hubert Germain. Comment peut-on continuer ce travail mémoriel ?
Eh bien, c'est l'histoire, c'est le travail des générations à venir qui continueront à s'en mêler. Et c'est pourquoi c'est un des plus beaux métiers du monde que d'être historien. Ça ne veut pas dire qu'on pose une vérité sur la table définitivement. Elle évolue au gré des questions successives que nous pouvons poser au passé, mais elle se nourrit de l'œuvre de ceux qui se sont mêlés de la construire, cette histoire, avec objectivité, et avec honnêteté et avec la détermination de la probité. Je crois qu'à cet égard, celui qui disparaît, Daniel Cordier, est fort représentatif et que cela demeurera attaché à sa belle mémoire.
Merci beaucoup Jean-Noël Jeannonet d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Et puis sachez que cet entretien va te retrouver en longueur sur franceculture.fr. Le pic épidémique de la deuxième vague de Covid-19 a sans doute été franchi en Europe. En France, le nombre de patients en réanimation a continué de diminuer légèrement pour le quatrième jour consécutif. Mais la page du confinement n'est pas encore tournée. Si ces indicateurs sont à la baisse, ce n'est pas une raison pour relâcher nos efforts, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Un message qui a été martelé toute la journée par les soignants du CHU de Toulouse, qui restent malgré tout optimistes. Stéphane Iglesis les a rencontrés.
Les soignants interrogés confirment que le couvre-feu et le confinement ont cassé la dynamique de diffusion du virus. Il y a eu 116 patients pris en charge cette semaine, contre 220 le 12 novembre. Et les capacités de réanimation sont occupées à 80% dans les unités spéciales Covid aujourd'hui, contre 90% il y a 48 heures seulement. Chloé Demiglio est biostatisticienne au service de virologie. En gros, c'est une matheuse qui fait des prévisions de diffusion du virus, en ce moment, sur la région toulousaine.
Le confinement, lui, a cassé la dynamique de croissance de la courbe, puisqu'on passe d'un taux de positivité des tests d'environ 16%, donc avant le confinement, à un taux de positivité des tests attendu de 7,6% au 1er décembre.
C'est la décrue, mais c'est plus lent que lors du premier déconfinement. Vincent Boone, directeur du SAMU 31.
La maladie, vous l'avez vu, elle a démarré comme un 110 mètres haies. On a été très très vite. Ensuite, on a fait un semi-marathon parce qu'il fallait tenir avant l'été, il fallait vraiment boucler. Maintenant, on est sur un marathon où il va falloir tenir sur la durée, il va falloir tenir des mois, le temps que les vaccins arrivent. Et c'est très dur de courir un marathon, surtout si on a démarré sur un 110 mètres haies.
Quant au directeur de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, il préfère dire que nous sommes au milieu du chemin et qu'il ne faut pas relâcher les efforts.
À noter également qu'Emmanuel Macron s'exprimera ce mardi à 20h dans le cadre d'une allocution télévisée pour faire le point sur la situation. Le Black Friday, traduisait vendredi noir, n'aura pas lieu le 27 novembre. La grande distribution, le commerce et le commerce en ligne ont accepté de décaler d'une semaine cet événement. Il se tiendra donc le 4 décembre, report évidemment conditionné en fonction de la réouverture des boutiques afin d'éviter des attroupements dans les magasins. Aux États-Unis, 17 jours après l'élection présidentielle et presque 2 semaines après l'annonce des résultats, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Son équipe a multiplié sans succès les recours dans plusieurs états clés. En Géorgie, par exemple, les bulletins ont été recomptés à la main et ce nouveau décompte donne bien Joe Biden vainqueur. Mais les avocats de Trump persistent. Il y a eu fraude selon eux pour donner la victoire au candidat démocrate. À Washington, les précisions de Grégory Phillips.
En Pennsylvanie, en Géorgie, mais aussi au Nevada, dans le Michigan et l'Arizona, les avocats de Donald Trump ont multiplié les recours. À chaque fois, ils ont été déboutés par les tribunaux locaux ou ont fini par retirer leurs plaintes. Pourtant, la petite équipe de juristes emmenée par l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani, n'en démord pas. Il y a eu, à leurs yeux, une fraude massive, organisée. Hier, au siège du Parti républicain à Washington, l'ancien maire de New York a donné une conférence de presse stupéfiante pendant près de 2 heures, déroulant des théories conspirationnistes, affirmant que le Venezuela, la compagnie Dominion qui fabrique les machines à voter, ou encore le philanthrope George Soros, se trouvaient derrière cette manipulation.
George Soros, le plus grand donateur du Parti démocrate, le plus grand donateur aux Antifa et à Black Lives Matter, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous révéliez aux gens la vérité ?
Sur Twitter, Donald Trump vitupère aussi, parlant presque chaque jour d'une élection truquée. Le président sortant doit recevoir à la Maison-Blanche tout à l'heure des élus républicains du Michigan, état qu'il affirme avoir remporté, et ce au moment où les autorités locales s'apprêtent à certifier les résultats du 3 novembre qui donnent la victoire à Joe Biden.
Grégory Phillips. 37 personnes ont été tuées depuis mercredi en Ouganda dans le cadre de violences déclenchées par une nouvelle arrestation du député et populaire chanteur Bobi Wine. Il est le principal rival du sortant Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier qui s'annonce très tendue. Et puis l'Organisation des Nations Unies alerte sur le risque de famine au Yémen, évoquant la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en appelle directement aux grandes puissances internationales. Les droits de l'homme, une nouvelle fois attaqués ces derniers jours en Égypte, l'ONU et Amnesty International se sont joints aujourd'hui à une tempête diplomatique contre le régime du président Sisi. En cause, l'arrestation en moins d'une semaine de 3 responsables d'une ONG locale de défense des droits humains qui avaient rencontré des diplomates étrangers. La correspondance au Caire de Martin Roux.
Les 3 membres de cette ONG sont accusés de propager des fausses nouvelles, d'appartenir à une organisation terroriste. Cette méthode du régime égyptien est bien connue des militants des droits de l'homme. Pourtant, cette fois-ci, ils sont en état de sidération. Ce coup de filet intervient seulement 2 semaines après une visite dans les locaux de cette ONG d'une dizaine d'ambassadeurs européens. Pour Mohamed Lotfi, directeur de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, le message envoyé par le régime est très clair.
Ne vous sentez pas fort. Vous n'êtes pas protégé par quiconque, ni soutenu par quiconque. Et c'est au gouvernement égyptien de décider quand il arrête les défenseurs des droits de l'homme sans regard à des pressions externes ou internes. Donc c'est un message de peur, c'est un message de menace à tout le monde, comme quoi il faut se méfier de ce que le gouvernement peut faire en représailles à toute position. Tout meeting.
Suite à cette série d'arrestations, la France a fait part de son inquiétude, immédiatement rembarrée par l'Égypte qui dénonce une interférence dans une affaire intérieure. Les deux pays sont des alliés stratégiques. L'Égypte est l'un des principaux acheteurs d'armement français. Dans le cadre de ce partenariat, le Quai d'Orsay promeut sur le dossier des droits humains un dialogue franc en privé avec le président égyptien. Ce dialogue vient d'essuyer publiquement un sérieux revers.
Et puis la météo de demain matin, le temps sera calme avec quelques gelées. Des bancs de brouillard seront présents dans les vallées du sud-ouest ainsi qu'au centre et au nord-ouest. Le reste du pays sera ensoleillé. Du côté des températures, il fera 0 degré à Bourges, 1 à Strasbourg et Aurillac, 5 degrés à Paris, Bordeaux et Montpellier. Les maximales pour demain matin seront pour Brest et Ajaccio avec 12 degrés. Pour l'après-midi, Météo France prévoit entre 6 degrés dans l'est du pays et 15 degrés sur le pourtour méditerranéen.